Ah, vous les jeunes, vous allez changer le monde!
On l'a entendu souvent, cette phrase-là. C'est bien beau de nous dire qu'on va changer le monde, mais comment est-ce qu'on va faire ça? L'environnement, c'est vaste, c'est grand. Ça veut aussi dire que les domaines dans lesquels on peut s'impliquer sont nombreux. Si vous vous sentez perdu à travers toutes les manières d'y donner du vôtre, vous êtes à la bonne place. On est là pour vous guider, pour vous dire comment vous informer, comment vous impliquer et comment travailler dans des domaines captivants qui aident à protéger l'environnement. Écoutez l'émission « Les jeunes vont changer le monde » pour savoir comment passer de la parole aux actes.
Bonjour, bienvenue à « Les jeunes vont changer le monde ». Je suis toujours en compagnie de Jacob Buisson.
Salut!
Et de Daphné Gaudreau, vous allez
Hello.
Bien?
Oui, et puis toi?
Oui! Donc, petit épisode spécial ce soir. On a décidé de vous faire un petit... un épisode spécial qui serait différent des autres épisodes. Donc, Les jeunes vont changer le monde, c'est une émission où on vous inspire à vous informer, vous impliquer ou travailler dans des domaines en environnement. Puis cette semaine, on a décidé de faire une émission où on allait faire on a aimé ça, appeler ça comme ça, un speed dating d'entrevue où on reçoit 4 personnes en entrevue. Donc, on n'a pas vraiment préparé de contenu pour vous, c'est plus on reçoit des gens en entrevue, puis ils vont nous parler de leur métier en environnement ou en fait, qu'est-ce qu'ils font pendant leur étude pour travailler dans le domaine. Vous allez voir, c'est 4 personnes qui ont des backgrounds vraiment différents. Donc, on reçoit d'abord Mathieu Dufresne, qui est chargé de projet pour Nature Canton de l'Est, qui va venir nous parler de conservation. Après, on reçoit Sophie Valence-Doucet, qui est directrice générale de FEV, qui est Festival et événement vert de l'Estrie, qui va venir nous parler vraiment de cet organisme-là, comment on peut s'impliquer et tout, puis de son travail aussi au sein de l'organisme. On reçoit ensuite Mireille Pilon-Demenac, qui est étudiante en travail social, donc elle va pouvoir nous parler un petit peu du lien qui est étonnant entre le travail social et l'environnement. Donc, c'est vraiment intéressant. Et finalement, on reçoit Marc Blondeau, qui est technicien en gestion des ressources pour Parc Canada. Donc, il va pouvoir nous parler de conservation et de géomatique. Donc, voilà, c'est nos entrevues pour ce soir. Vous êtes prêts?
Ben oui, absolument.
Allons-y!
Yeah! Et salut Mathieu, ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Oui, super. Peut-être première petite question, c'est quoi ton poste puis l'organisation pour laquelle tu travailles? Peux-tu nous parler un peu de ça?
Oui, donc Mathieu Dufresne, moi je suis chargé de projet chez Nature Canton de l'Est. C'est un organisme de conservation actif en Estrie, donc grosso modo de Sherbrooke jusqu'à Mégantic et Weedon. Donc on a un grand territoire sur lequel on travaille toutes sortes de projets de conservation des milieux naturels.
Super. Puis, ça fait combien de temps que tu travailles pour Nature Canton de l'Est ou que tu as ce poste-là?
Ça va faire 8 ans.
OK,
quand même.
Ça va
faire 8 ans. Oui, le temps file. puis, j'aurais pas cru ça quand j'ai commencé ici, mais ouais, en avril, 8 ans.
OK, c'est cool. Puis, est-ce que tes tâches ont beaucoup varié dans le temps? Tu sais, je voulais savoir en général, c'est quoi tes tâches, mais sur 8 ans, est-ce que ça a bougé beaucoup?
Ça a commencé avec un intérim à la direction. Ça a commencé en force. Je suis chargé de projet. On est un petit organisme quand même. On a toujours une permanence. Il y a des gens qui sont au bureau de manière continue depuis toujours. Mais on a quand même pas des équipes spécialisées. Donc, mes tâches sont très variées. Ça va de la comptabilité, évidemment la gestion de projet, gestion de ressources humaines, puis les travaux terrain aussi. Puisqu'on est un petit organisme, on peut se permettre de maintenir un haut niveau de polyvalence, de la géomatique aussi, évidemment la recherche de financement, jusqu'à toutes sortes de petites tâches connexes. Donc c'est très varié, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui a été évolutif au fil des ans, c'est quelque chose qui varie sur une base quotidienne, hebdomadaire.
Puis j'imagine que ça varie aussi selon les saisons. J'imagine qu'il y a des tâches plus spécifiques à l'été, des inventaires, des choses comme ça. Faites-vous des inventaires?
On fait beaucoup d'inventaires. L'été, je vous dirais que c'est notre pain puis notre beurre, ni plus ni moins. Donc, on a des équipes, parfois jusqu'à 8 à 10 techniciens saisonniers qui participent aux inventaires. On fait plusieurs dizaines de propriétés parce que, bon, on est dans le sud du Québec, donc on est à peu près partout en terre privée. C'est donc dire que les inventaires qu'on fait, c'est chez des gens qui nous ont invités ou qui ont accepté nos propositions d'aller faire les inventaires. Donc, c'est plusieurs dizaines par été, de mai jusqu'à parfois même début octobre. Okay. Puis l'hiver, bien évidemment, l'hiver, on est en rédaction, donc toutes les données colligées, ben, il faut les mettre en forme, préparer des cartes, des cahiers, livrer ça, puis essayer de passer notre message aux propriétaires.
Puis ces inventaires-là, ils donnent quoi au final? Est-ce que les propriétaires vont faire de la conservation ensuite?
Oui, c'est ça. Ben, on appelle ça de la conservation volontaire. C'est un engagement moral. Donc, la première étape, quand un propriétaire accepte de participer à un de nos projets, bon, ben, en amont de ça, nous, on trouve des fonds. Donc, quand on sollicite des propriétaires, généralement, c'est pas des services qu'on veut leur vendre, ce sont des services qu'on veut leur offrir. Donc, quand on les sollicite, c'est moins gênant parce qu'on appelle pas comme des quêteux, comme on dit, on appelle pour offrir un service. Puis, c'est des inventaires à large spectre des milieux naturels. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est milieu humide, cours d'eau, espèces menacées ou vulnérables, espèces envahissantes aussi, parce qu'on n'a pas le choix de s'intéresser aux espèces envahissantes. Dans le sud du Québec, on en a beaucoup. Donc, c'est des inventaires de la biodiversité à large échelle qu'on fait sur la propriété. Puis, on vient colliger tout ça dans des beaux cahiers avec des photos, des cartes, des tableaux, du texte, puis des recommandations aussi pour la conservation, mais pas dans une optique contraignante. C'est-à-dire que ça ne change pas le statut de la propriété. On ne cherche pas à acquérir des propriétaires les milieux naturels. On cherche à les accompagner dans la gestion qu'ils font du milieu naturel en leur donnant des connaissances sur la biodiversité qu'ils n'avaient pas. On pense qu'ils n'avaient pas avant qu'on arrive chez eux.
Fait que dans le fond, j'avais une question qui était de savoir est-ce qu'avec ce métier-là, on peut espérer changer les choses en environnement, puis c'est quoi les impacts du métier? Bien, j'imagine que si les gens suivent vos recommandations, bien là, ça vient protéger les milieux ou à l'inverse, ils viennent comme éradiquer des espèces qui ne voulaient pas sur leur terrain, des espèces exotiques envahissantes. J'imagine que ça a quand même un réel impact, là.
Ben, on le souhaite parce que je pense qu'on ferait pas notre travail si on pensait qu'on on le faisait dans le vide. Évidemment, on est bien conscient qu'on n'a pas un impact à l'échelle globale. Nous, on est un organisme, disons, local ou régional. Mais bon, à multiplier les démarches auprès des propriétaires, quand je regarde dans mes dossiers, je me rends compte qu'au fil des ans, c'est quelques centaines de propriétaires avec qui on a travaillé. Puis évidemment, nous, bon, on les rencontre ponctuellement, on fait un inventaire, on offre l'information dans les cahiers, mais on n'a pas les outils ni les ressources pour aller mesurer à long terme tous les changements qu'on a engendrés dans les pratiques de ces gens-là. Donc, on peut seulement deviner ou espérer avoir changé les pratiques. Faut dire quand même que chez la très grande majorité des gens qu'on voit, les gens ont déjà, somme toute, des bonnes pratiques. Je mentirais si je disais qu'on arrive toujours comme les sauveurs de l'environnement dans des milieux dégradés. C'est pas le cas. Les gens chez qui on travaille, ben d'emblée, puisqu'ils nous accueillent chez eux, c'est qu'ils ont a priori déjà une ouverture ou un intérêt envers la biodiversité et les milieux naturels. Donc, mais on peut deviner que oui, on a un impact. Du moins pour le maintien de la vocation des milieux naturels. On n'est pas, comme je disais, dans une optique de protéger intégralement. Si les gens font de l'aménagement forestier ou différentes pratiques d'aménagement, ben on les accompagne là-dedans. On n'essaie pas d'empêcher ça. Mais oui, on pense qu'on a un effet positif sur les milieux naturels.
Ben, c'est inspirant en tout cas. Puis si y a quelqu'un qui nous écoute qui s'intéresse à la conservation, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour soit juste comme s'informer sur le sujet ou s'impliquer en faisant du bénévolat ou quelqu'un qui veut travailler là-dedans, t'as-tu des ressources à donner aux gens qui nous écoutent?
Ben pour les gens qui ont de l'intérêt maintenant, bon, à l'époque des réseaux sociaux, ben les organismes de conservation ont à peu près tous des outils de diffusion sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez facile par des pages Facebook, par exemple, de se tenir au fait de ce qui se passe chez les différents organismes dans la région où on se trouve. Puis ces organismes-là, bon, il y a des organismes locaux, il y a des organismes plus nationaux aussi qui vont offrir des formations, des webinaires. Bon, la pandémie a rendu les webinaires beaucoup plus fréquents. Donc, c'est facile d'assister à des colloques, des congrès, des conférences en ligne. Il y a encore des événements en présentiel de plus en plus, ça revient. Donc, des sorties terrain dans des milieux naturels d'intérêt. Il y a des milieux naturels en conservation qui sont accessibles. On pense à la réserve des Montagnes Vertes. Pour ce qui me concerne, moi, ben on s'occupe du parc écoforestier de Johnville. Donc ça, ce sont des milieux qui sont ouverts au public et où les gens peuvent aller profiter de beaux milieux naturels accessibles. Puis sinon, ben si les gens ont envie de s'informer ou s'impliquer, ben oui, il peut y avoir du bénévolat. Puis pour travailler, ben c'est sûr que si je parle aux universitaires qui sont dans les régimes coopératifs, ben le système des stages est une belle occasion de se familiariser avec le milieu parce que les organismes de conservation embauchent aussi des stagiaires à l'occasion. Donc ça, c'est une manière d'aller faire une expérience de travail puis voir si la nature des mandats de ces organisations-là nous appelle. Donc ça, c'est une belle manière de le voir.
Super.
Si on, je suis curieux là, si on essaie d'explorer des choses qu'on voit pas nécessairement liées à l'environnement, est-ce qu'il y aurait des métiers dans votre organisme qui seraient pas de l'écologie, qui seraient de la comptabilité ou des choses comme ça?
Ben ouais, bonne question. Chez nous, avec le chiffre d'affaires de l'organisme, on n'a pas toutes les personnes qui travaillent chez nous sont toutes formées dans le milieu, soit biologie, écologie ou environnement. Chez les plus grands organismes, je pense à, par exemple, un organisme présent sur la rive sud de Montréal comme Nature Action Québec, ben là, il y a effectivement des gens des communications en administration qui vont gérer la comptabilité aussi. Chez nous, pour ce qui est des expertises ponctuelles qu'on n'a pas à l'interne, comptabilité, tout ça, ben on fait affaire à l'externe. Mais sinon, pour tout ce qui est des tâches qui peuvent relever d'un professionnel en biologie, en environnement. Je pense, tout ce qui est inventaire jusqu'au recrutement des propriétaires, la prestation de conférences, d'activités, la géomatique, ben ça, on le fait nous-mêmes à l'interne. Donc, c'est pour ça. Puis la majorité de mes collègues et moi-même, on apprécie cette polyvalence-là qui est un besoin, mais qui est aussi un atout. Donc, mais c'est ça. On fait pas notre comptabilité nous-mêmes. On confie ça à des ressources à l'externe.
Ah, super.
Super. Eh bien, un gros merci. Je rappelle, on était en compagnie de Mathieu Dufresne, qui travaille chez Nature Canton de l'Est. Donc, gros merci, Mathieu.
Bien, merci à vous pour l'invitation.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Bye. On est maintenant en compagnie de Sophie Valence-Doucet. Donc, salut Sophie, ça va bien?
Salut, ça va bien, vous?
Oui, ça va. Donc, première petite question, peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ton poste puis l'organisation pour laquelle tu travailles?
Bien sûr, moi je suis directrice générale chez l'organisme à but non lucratif Festival et événements verts de l'esprit, FEVE de son petit nom.
Super, puis dans le fond, qu'est-ce que ça fait un petit peu, FEVE? Tu peux-tu nous parler un petit peu de l'organisme?
Oui, dans le fond, nous, notre mission, c'est d'accompagner les organisateurs d'événements dans leur démarche d'éco-responsabilité partout en Estrie et de sensibiliser le public, les municipalités, les organisateurs d'événements à l'importance des gestes éco-responsables, particulièrement dans un contexte événementiel. Donc, on est en fonction depuis 2013, puis on a accompagné un petit peu plus que 300 événements là, depuis presque une décennie.
Wow, c'est impressionnant. Puis, toi, ça fait combien de temps que tu as ce poste-là ou que tu travailles pour FEVE?
En fait, moi, j'ai commencé pendant mon bac en environnement. J'ai fait un stage pour FEVE à la fin de mon bac. Puis après ça, je me suis fait offrir le poste à la coordination en 2019. Puis j'ai été promue à la direction générale en janvier 2020. Donc, ça fait un petit peu plus que 3 ans que je travaille à temps plein pour l'organisme.
C'est le fun, ça donne des belles opportunités. Ça prouve que les stages, ça a sa place, là.
Oui, vraiment.
Puis au quotidien, tes tâches, tu dirais que ça ressemble à quoi?
En fait, moi, je suis vraiment responsable en tant que directrice de toute la gestion de l'organisation. Donc, autant des tâches administratrices au niveau, par exemple, de la comptabilité, la gestion des richesses humaines, le développement des affaires, la gouvernance. Mais je suis aussi responsable de tous les mandats environnementaux de l'organisation, en fait. On est vraiment une petite équipe, donc tout le monde met la main à la pâte sur les mandats pour rendre les services de l'organisation. Donc, en tant que directrice, j'ai le mandat, évidemment, de superviser l'équipe, superviser les stagiaires, mais je collabore aussi là, dans les mandats environnementaux pour qu'on travaille tous ensemble.
OK. Puis, avec ton métier, ou en fait, même juste en général avec FEVE, est-ce qu'on peut espérer changer les choses en environnement? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme impact réel avec ton travail sur l'environnement?
Définitivement, l'événementiel, c'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup à faire pour l'environnement. Moi, ce que j'adore de ce domaine-là, c'est que nos actions ont des conséquences qui sont vraiment très directes, qui sont visibles, qui sont mesurables. C'est juste un exemple, si on accompagne, par exemple, un organisateur d'événements pour faire un événement qui est carboneutre, ben on voit vraiment directement, puis on va être amené à mesurer toutes les émissions de carbone, de gaz à effet de serre qu'on a évité grâce à cette bonne action-là. C'est la même chose avec la gestion des matières résiduelles. Dans les événements qu'on accompagne, on va peser toutes les matières. Comme ça, on peut donner un taux de détournement à notre client, mais ça nous permet de voir exactement combien de matières est-ce qu'on a évité d'envoyer à l'enfouissement ou de contaminer le compost ou le recyclage. Donc, c'est vraiment très, très direct. Depuis 2013, par exemple, avec Fèvre, on a détourné, là, on est rendu un petit peu plus que 110 tonnes de matières résiduelles détournées de l'enfouissement avec tout le travail de nos bénévoles puis de nos employés.
Wow.
Puis, évidemment, ben, on a un impact aussi au niveau de la sensibilisation. C'est sûr que c'est un peu plus indirect, mais c'est tout aussi important. On va faire des activités d'éducation, des formations, des conférences dans les écoles ou auprès de nos clients. Donc, on peut imaginer aussi que cette éducation-là a un effet papillon auprès des personnes qu'on côtoie, auprès de nos bénévoles, auprès de nos employés aussi. Donc, c'est sûr qu'on peut espérer changer le monde, même si on le voit pas, on le mesure pas de façon concrète. La sensibilisation reste quand même une action super importante, à mon avis.
Ben oui, la sensibilisation, ça permet de rejoindre plus de gens. Puis j'imagine aussi, en faisant ce genre d'activité-là, vous allez rejoindre plus d'événements. J'imagine avec les années, vous découvrez des nouveaux événements ou en fait, eux vous découvrent puis ils disent « Ah, ben on va collaborer avec Fèvre ». J'imagine que ça fait rayonner aussi l'organisme, là.
Tout à fait. Puis nous, c'est vraiment dans notre mission. On est une entreprise d'économie sociale, donc on mise beaucoup sur l'humain. On veut vraiment réussir à éduquer les différents types de la population. On veut réussir à rejoindre justement les jeunes dans les activités d'éducation, dans les écoles ou quand ils s'impliquent avec nous en tant que bénévoles. Donc, c'est vraiment une valeur qui est importante pour nous aussi.
Puis justement, tu parles d'implication. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui s'intéresse à la gestion des matières résiduelles ou aux événements éco-responsables, puis qui voudrait soit comme s'informer, s'impliquer ou travailler dans le domaine? Je pense par exemple au fait que il y a sûrement des prochains événements qui s'en viennent avec Fèvre. Ça, c'est sûrement une belle façon de s'impliquer. Mais en général, as-tu des conseils à donner? Tu peux nous parler des deux, là, en fait, là?
Oui, ben en fait, le premier conseil que je donne tout le temps, c'est de venir s'impliquer sur le terrain. On en apprend tellement sur le domaine de la gestion des matières résiduelles ou sur le domaine événementiel aussi, en le vivant concrètement, en étant vraiment impliqué sur le terrain, en ayant les deux mains dedans, si on veut dire,
ouais.
Chaque année. T'sais, j'ai des stagiaires là, qui sortent d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en environnement, puis qui terminent le stage avec nous en disant « Wow, j'ai vraiment appris plus que j'aurais pu apprendre pendant mes cours sur la gestion des matières résiduelles, que ce soit en ayant à répondre aux questions des citoyens ou en formant les bénévoles ou en faisant le tri des matières, par exemple, dans un événement. C'est là qu'on en apprend le plus. C'est vraiment une expérience qui est très formatrice. Puis comme tu l'as dit, bien oui, n'importe qui veut s'impliquer avec Fèvre, on a plusieurs possibilités d'implication. De façon générale, à chaque année, on engage là, entre 4 et 8 stagiaires qui vont être vraiment nos ambassadeurs sur le terrain, qui vont collaborer au mandat de service de conseil qu'on fait aussi. On a d'ailleurs des postes de disponibles pour cet été, si jamais il y a des auditeurs, auditrices qui sont intéressés. Mais sinon, il y a toujours l'implication bénévole. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on organise nous des équipes vertes. Donc, dans chaque événement où on est présent, là, on va avoir de 3 à 30 bénévoles, par exemple, par plage horaire. Donc, c'est une bonne façon de donner de son temps. Puis, l'implication avec Fèvre, c'est payant, en fait. En échange de l'implication des bénévoles, on leur offre le choix d'une organisation locale à laquelle Fèvre va remettre un don monétaire. Donc, c'est une belle façon soit d'encourager une cause qui vous tient à cœur en venant donner votre temps pour l'équipe verte ou carrément de venir financer un projet, une association étudiante, une organisation que vous connaissez. Donc, c'est une implication là, qui a des retombées doublement positives.
Ah, mais c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Là. Je sais que moi et Jacob, on s'est impliqués là, cet automne pour ramasser des fonds pour notre cohorte. Donc,
Ouais, c'était effectivement payant.
Oui, fait que c'est vraiment intéressant. Mais merci beaucoup. Je rappelle, on était avec Sophie Valence-Doucet, qui est directrice générale chez Fèvre Festival et Événements Verts de l'Estrie. Donc, un gros merci, Sophie, pour ta participation.
Merci.
Merci à vous. Puis, découragez-vous pas, vous allez réussir.
Ah, c'est gentil. C'est gentil, merci. Bye.
Bye bye.
Salut Mireille, ça va bien?
Allô, oui.
Oui, super. Merci d'être ici, Téphine. J'ai des petites questions pour toi. En ce moment, tu étudies en travail social, puis tu as déjà travaillé pour un organisme communautaire. C'est pas un organisme communautaire. Peux-tu recommencer? Qu'est-ce que tu m'as dit que c'était, Mireille? C'est pas un organisme communautaire.
C'est un organisme à but non lucratif.
OK, je recommence. Excuse. Quoi?
Ah, c'est bien correct.
OK, c'est bon. Donc, tu étudies présentement en travail social et tu as déjà travaillé pour un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Est-ce que tu peux m'expliquer comment les deux domaines se rejoignent?
Oui. Ben oui, en fait, l'été passé, j'ai travaillé pour pour l'organisme Eureco, qui est un organisme, comme tu l'as mentionné, de BNL, donc à but non lucratif, au Saguenay, dont la mission principale est l'environnement, aider les municipalités, la ville de Saguenay et les municipalités alentours de développer des projets visant le développement durable et le bien-être aussi social.
Il y a le verdissement. Donc, pas mal, je pense. Hein? Le verdissement de la ville aussi, beaucoup, je pense.
Oui, mais ça, en fait, c'était un projet de cet organisme-là dans lequel je travaillais. Donc, ils ont eu un financement avec l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique, pour un projet de verdissement urbain. Donc, l'été passé, je plantais des arbres, des plants, de petits fruits et tout ça dans des milieux, dans la ville, dans les milieux urbains, pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, on était, étant donné que c'était avec l'Institut national de la santé publique, on faisait des îlots de verdissement urbain dans des CHSLD, CLSC, organismes communautaires et écoles.
OK. Fait que ça allait directement à aider les personnes qui utilisent ces milieux-là en enlevant un peu de chaleur, dans le fond? Puis est-ce que ces personnes-là impliquées avec toi? Ils t'aidaient-tu? Ou?
Pour l'école, oui. Les écoles, oui. Puis les organismes communautaires aussi. CLSC, CHSLD, un peu moins, étant donné que c'était en plein COVID. On est encore en COVID, mais un peu dans un pic de COVID. Mm-hmm. Et c'est des personnes qui ont une santé plus sensible, je pourrais dire. Mais oui, c'est ça, en fait, parce que tous ces milieux-là, il y avait beaucoup de béton, de briques, il n'y avait pas beaucoup de plants, de fruits, d'arbres et tout ça. Fait que ça fait que la brique absorbe la chaleur, donc puis le béton aussi, ce qui faisait que tout l'environnement était avait plus de degrés, c'est ça, c'était plus chaud, ressenti plus chaud que s'il y avait eu des arbres à proximité, s'il y avait eu du gazon. Mais même là, le gazon en tant que tel, c'est pas une si bonne chose. Puis c'est comme, ben, je suppose, comme vous l'avez étudié, c'est bien d'avoir d'autres plants parce que ça retient pas l'eau. Donc aussi dans les villes, c'est bien d'avoir des plants, des arbustes et tout ça, autres que du gazon pour retenir le ruissellement aussi des eaux puis bien filtrer l'eau qui pourrait être récupérée.
Oui. Ah, ben c'est super.
Donc c'est ça aussi.
Puis, à part travailler pour Eureco, mettons, est-ce qu'il y a d'autres volets du travail social qui impliquent d'aider des gens qui vont subir les effets des changements climatiques?
Ben oui, en fait, le changement climatique a été reconnu comme une problématique sociale. Il y a eu une reconnaissance parce que ça touche de plus en plus de monde, donc directement et indirectement. Il y a un impact sur la qualité de vie, donc santé physique, psychologique. Donc, même la santé publique essaie de s'y attaquer. Il est possible qu'on puisse apporter des changements. Puis, ça a un impact, ben justement, ça a un impact sur la santé, sur santé, économie, pauvreté, sécurité, environnement, rapport humain, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est reconnu du gouvernement et des scientifiques comme étant un problème social. Puis, c'est pour ça que les travailleurs sociaux agissent ou peuvent agir aussi sur ces problématiques-là.
Okay.
Comme par exemple, tout ce qui est l'insécurité alimentaire, c'est de montrer que il y a des personnes qui vont habiter dans des milieux plus justement qu'il n'y a pas d'environnement sain, d'arbres et tout ça, de jardins et tout, puis qui vont pas nécessairement avoir accès à de l'alimentation saine. Donc, c'est pour ça que dans ces milieux-là, ils vont essayer de verdir un peu plus, puis il va y avoir des projets collectifs de jardins communautaires, par exemple, pour que ces personnes puissent s'alimenter de manière plus saine, aussi développer cette autonomie-là, puis en plus, ça fait des espaces verts.
Mm-hmm. Puis,
tu m'as dit, il me semble, que tu souhaitais travailler au communautaire après avoir... Parce que là, tu es encore au baccalauréat en travail social. Tu m'avais dit que, suite à ton bac, tu aimerais ça travailler au communautaire. Y a-t-il un volet qui t'intéresse tout de suite ou tu es encore en réflexion?
Je suis encore en réflexion. Mais c'est sûr que je préfère le milieu... Ben, tout court, entre le milieu communautaire, on a comme deux choix, ou le milieu public. On peut travailler aussi dans d'autres instances, mais c'est plus ceux-là. Public, ça m'intéresse plus ou moins parce que c'est très administratif, tandis que le communautaire, c'est un peu plus de liberté dans tes projets que tu peux faire. Et tu, à mon avis, tu rencontres un peu plus de gens aussi variés. Puis également, on touche politique aussi. Plus précisément, j'avoue que la clientèle qui m'intéresserait est plus tout ce qui est immigration. Mais aussi, j'ai commencé à me rendre compte que j'appréciais, que c'était très varié ce que j'appréciais, puis j'appréciais plus faire des projets au sein de la communauté. Donc, peu importe le type de gens d'une communauté, au moins aider à ce que celle-ci puisse se développer de manière plus autonome et développer des projets pour améliorer les qualités de vie de cette communauté-là.
Ah, oh, c'est tellement intéressant. Puis là, passe un peu, je fais du coq à l'âne. On vient de Jonquière toutes les deux, puis on a souvent parlé d'à quel point le centre-ville de Jonquière, c'était correct. Là, comme on a déjà vu le centre-ville plus existant. Puis il me semble t'avoir déjà entendu parler d'un projet que tu avais avec des amis ou je sais pas trop exactement là, c'était quoi. Tu voudrais-tu m'en parler un petit peu? Puis me... Tu sais... Je sais que c'est un projet qui était rassembleur aussi, puis tu avais tout plein d'idées dans ce sens-là. Là. Fait qu'est-ce que tu voudrais m'en parler un peu?
Oui, bien, c'est sûr que c'est passif un peu, mais c'est avec une amie, justement, qui s'appelle Megan, qu'elle est très... Elle s'y connaît beaucoup dans la lutte, justement, changement. Elle est très concentrée là-dedans. Puis, on avait l'idée peut-être de faire comme un café plus... qui pourrait rassembler plusieurs projets, donc un café qui pourrait autant être d'un volet plus artistique, il pourrait y avoir des soirées artistiques, des places des ateliers, d'activités, tout ça aussi, qu'il pourrait y avoir justement des soupes solidaires et cafés solidaires pour les gens qui sont un peu plus moins nantis. Après ça, on pensait aussi, parce que Mayan, comme j'ai mentionné, l'aspect environnemental est important pour elle. Donc, si c'était possible de trouver une place où est-ce qu'il y aurait un petit terrain également pour faire soit un petit jardin communautaire dans cet emplacement-là, ou au moins y planter des plantes fruitières pour la population, puis qu'on pourrait utiliser aussi dans des recettes ou autres qui pourraient s'offrir. Mais comme je dis, c'est encore un projet qui est à l'étape de pensée et prototype. Mais c'est quelque chose comme ça qu'on va faire parce que, ben, c'est ça, comme tu l'as mentionné, Jonquière, c'est beaucoup dévitalisé. Il y a moins de monde, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés. Donc, à mon avis, il serait pertinent de faire quelque chose là. Puis même qu'il y a des jardins communautaires à Jonquière dans lesquels je vais travailler, mais ne sont pas situés dans le centre-ville même.
Oui, c'était ça ma question. J'avais cette prochaine question-là. Sont où les... Je sais que cet été aussi, tu travailles encore dans le niveau sécurité alimentaire. Sont où les jardins communautaires à Jonquière?
En fait, il y en existe trois. Autrefois, ils n'étaient pas centralisés, ils étaient séparés selon les organismes. Là, c'est un organisme même qui va s'en occuper avec le comité de sécurité alimentaire. Donc, l'organisme est entre autres. Il y a un jardin, plus précisément à Arvida, donc à Saint-Mathias, qui est à côté d'une ancienne église. Après ça, il y en a un directement à côté de l'hôpital de Jonquière, mais les gens, si tu le sais pas, tu vas jamais le voir parce qu'il est, il est dans un stationnement de gravel.
OK, un jardin dans un stationnement de gravel.
Ouais, donc on le voit pas, mais c'est justement, c'est Eureko qui l'avait fait, donc il avait tout mis en place, les installations, il avait réfléchi comment tout organiser ça dans le milieu qu'il y avait. Puis finalement, c'est un des jardins les plus populaires. Il y a beaucoup de gens d'un peu partout de Jonquière qui y vont, qui veulent s'inscrire parce que c'est un très beau jardin, beaucoup de terrain. Et aussi, la chose qui est bien, c'est qu'étant donné qu'il est annexé à l'hôpital, mais il y a des personnes qui sont en réadaptation physique et tout ça, qui ont leur parcelle aussi ou qui peuvent y aller puis en apprendre plus dans le jardinage durant leur période de réhabilitation.
Ah, c'est tellement cool.
Ouais, puis c'est ouvert au public aussi. Il y a une petite forêt nourricière à côté.
Ben voyons que je suis pas au courant que ça existe, ça.
Non, c'est ça que je trouve dommage un peu, c'est qu'il faut le connaître pour y aller.
Ouais, c'est ça.
Puis sinon, l'autre, il est à Kenogami, à côté de l'école secondaire Kenogami. C'est le plus récent. Là encore, il y a quand même beaucoup de gens qui le fréquentent. Mais, par exemple, il y a un travail, je pourrais dire, de sensibilisation auprès des jeunes qu'il faudrait faire parce qu'il y a eu beaucoup de vandalisme dans ce... dans ce jardin-là.
Okay.
Donc, il est même clôturé, puis il y en a quand même.
Bon, ouais. Fait que cet été, si tu travailles au niveau de la sécurité alimentaire, c'est quoi que tu vas faire exactement? Puis comment ça va avoir un... Il est où le lien, mettons, avec le travail social? C'est-tu avec des communautés que tu vas pouvoir aider en même temps? Ou
Ben, en fait, c'est tout ce qui est Jonquière que je vais plus aider. Mais c'est en fait, selon la santé publique, maintenant, il y a eu des nouvelles parce que la santé publique agit sur les conditions de vie puis ils agissent en promotion, prévention. Même si, comme je dis, je travaille avec les organismes communautaires et non avec au
le CIUS, public, ouais.
Ben quand même, les actions des organismes communautaires doivent correspondre à certains plans de la santé publique.
Okay.
C'est une question de financement aussi. Puis la santé publique, maintenant, ils se concentrent davantage sur l'aspect qu'il faudrait premièrement apprendre à être autonome puis à développer, à faire ses propres jardins, à développer ses propres aliments pour combattre l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pour ça que les jardins communautaires sont importants pour justement essayer de sensibiliser les gens à l'importance d'être autonome de façon alimentaire, de s'occuper de son propre jardin, de voir pousser sa propre nourriture, puis de voir comment c'est gratifiant aussi. Puis en plus, ça l'amène, autant que c'est bien pour le niveau alimentaire, mais aussi ça l'amène à des gens que normalement socialisent pas beaucoup, puis sont plus renfermés sur eux-mêmes ou qui vont moins voir les gens, bien de socialiser puis de rencontrer du monde.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que les jardins communautaires sont présents. Puis, en même temps, mais comme j'ai mentionné, c'est pour la lutte à la sécurité alimentaire parce que en partenariat, justement, avec Entraide, comme je mentionnais, ils font des cuisines collectives. Puis, le but est d'utiliser le maximum de ces aliments-là parce que même l'organisme a ses propres petits terrains dans lesquels on plante, c'est comme des petits terrains communautaires dans toutes les parcelles, c'est ça, c'est des parcelles communautaires dans lesquelles on plante tomates, carottes, on avait planté aussi de la laitue et poivrons, puis que tous ces aliments-là, dès qu'ils vont être récoltés, ils vont être utilisés dans les cuisines.
OK.
Pour montrer aux gens comment les utiliser, comment qu'on peut les cuisiner aussi.
Ah, c'est tellement important puis c'est tellement intéressant. J'aurais une dernière question. Penses-tu que les gens qui ont une passion pour l'environnement puis la flamme aidante, comme toi, mettons, peuvent choisir le travail social comme métier? Puis est-ce que tu peux réellement avoir comme aider les gens qui subissent les répercussions des changements climatiques? Tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais comme... Tu sais, là, tu me dis que tu t'intéresses aussi aux personnes immigrantes. Là. Est-ce que ça peut avoir un lien peut-être avec les personnes qui doivent fuir leur pays à cause des changements climatiques ou des choses comme ça? Comme tu peux-tu avoir un... jumeler les deux en étant travailleur social?
Oh, c'est une très bonne question. Parce que j'ai l'impression que sûrement que oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes que ça va être, comme tu l'as mentionné, par les changements climatiques, qui doivent immigrer. Là, c'est sûr que normalement, les interventions auprès de ce type de population-là, c'est surtout l'adaptation, les aider à s'adapter dans leur nouvel environnement, les nouvelles coutumes, nouvelles conditions de vie et tout. Mais je pense que si on le fait aussi dans un vilain plus vert, donc aussi tant qu'à y être, y amener... la notion de moins gaspiller, la notion du compost, toutes ces notions-là qui n'ont peut-être pas, ça pourrait faire un mélange, mais je t'avoue qu'il faudrait que je regarde plus davantage comment mélanger ces deux aspects-là.
Mm-hmm.
Mais si je reviens à ta question sur comment le travail social... C'est quoi déjà? C'est comment le travail social pourrait être... qu'est-ce qu'on peut faire en environnement plus concrètement aussi?
Oui.
Oui, ben en fait... Je t'allais refouiller dans mes notes de cours. Mais en travail social, on peut faire plein de projets en lien avec l'environnement. Il y a un organisme qui existe à Québec qui sont les Amis de la Terre.
Okay.
Je pense que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez parce qu'en fait, oui. C'est mondial. Mais il y en a un à Québec. Puis, eux autres, justement, leur mission est d'aider les communautés à développer, mais à développer aussi des techniques de plus en plus environnementales.
Okay.
Donc, ils ont des ateliers pour anti-gaspillage. Donc, comment les gens, justement, qui vivent plus des situations de pauvreté peuvent plus réutiliser tout ce qu'ils ont dans leur environnement au lieu de jeter, comment ils pourraient les utiliser pour les aider en plus, justement, quand ils ont moins de moyens pour se procurer d'autres choses. Après ça, justement, à Québec, dans le quartier Saint-Roch, ils ont développé aussi, étant donné que c'est pas comparable au Saguenay, ils ont pas mal moins d'espace vert, mais ils ont quand même développé certaines petites forêts nourricières un peu partout dans Saint-Roch et comme petits jardins, je pourrais dire. Après ça, justement, ils vont aider à aider à la population, même les gens qui veulent agir sur qui veulent contrer les changements climatiques, mais plus à agir dans la défense de l'environnement. Mais ils vont les supporter, puis ils vont aider à trouver des solutions justement dans leur environnement même, donc à Québec. Je veux dire, ils travaillent autour de l'agriculture et l'alimentation, gaspillage alimentaire, décroissance et transition, zéro déchet. Donc, c'est ça que, tu sais, pour les organismes communautaires, on va retrouver de plus en plus d'organismes communautaires qui vont essayer de faire justement des petites actions comme ça pour l'environnement, comme justement Entraide, comme j'ai mentionné. J'ai déjà vu qu'il y avait un atelier de zéro déchet aussi qui se donnait, ou un atelier de comment faire ses propres éponges en tissu aussi. Donc, c'est plein de petites actions comme ça, ou comme j'ai mentionné, le jardin communautaire, ou plein de petites actions que les organismes vont faire et qui seraient pertinentes de développer. Puis en tant que travailleur social, on peut aussi, au lieu d'être juste avec des organismes, on peut aussi travailler au sein d'une MRC ou d'une ville, puis d'aider dans le plan, les plans d'action environnementale.
Mm-hmm, ouais.
Pour essayer d'amener aussi l'aspect plus de la communauté, pour que la communauté aussi agisse, puis que ce soit pas juste politique non plus, parce que si c'est juste ça, parfois ça avance pas nécessairement.
Mm-hmm. Ah, ben c'est super. Okay. C'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Merci beaucoup. Puis, écoute, je te souhaite bonne chance. Ben là, on va s'en reparler. Là, c'est pas comme si on s'en reparlait jamais, mais comme bonne chance avec la continuité de tes projets. C'est super intéressant puis important, tout ce que tu fais.
Ah, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Bye.
Merci à vous pour l'invitation.
Salut Marc!
Bonjour!
Ça va?
Ça va bien, ça?
Ça va bien, merci d'être là. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton poste puis l'organisation pour laquelle tu travailles?
Oui, bien dans le fond, moi je travaille pour Parc Canada, en fait, plus précisément pour le Parc national de la Mauricie. J'ai le titre de technicien en gestion des ressources. Ce que ça veut dire, ça, c'est des beaux termes pour dire que je travaille de part avec les techniciens en géomatique du parc. Donc, on est comme l'équipe ressources pour tout ce qui est géomatique, tout ce qui est soutien technique aussi pour les employés du parc et aussi pour les employés du Parc Canada at large. Mais là, la géomatique, c'est quoi en fait? C'est la question qui tue, je pense. Dans le fond, la géomatique, c'est tout ce qui a trait à la collecte de données géographiques, au traitement de ces données-là, à l'analyse de ces données-là et à la diffusion des données géographiques. Dans le fond, pour donner un exemple bien banal, là, c'est vraiment quand tu vas sur le terrain, mettons, tu veux prendre des points GPS, donc des coordonnées géographiques d'une entité quelconque, tu vas les compiler dans ton GPS, tu vas les mettre dans ton ordinateur, tu vas les traiter ces données-là pour avoir, dans le but en fait de diffuser ces données-là en faisant une carte par exemple. Donc ça, c'est un exemple bien banal d'une application de la géomatique. Quand tu fais ça, essentiellement, tu fais de la géomatique. Donc ça peut, c'est vraiment ça essentiellement, grosso modo. Puis souvent quand les gens me demandent c'est quoi de la géomatique, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis ben tout simplement je fais des cartes. T'sais. Ça peut se résumer à ça, c'est quand même très simplifié. Mais pour en revenir à Parc Canada, en fait, c'est une agence du fédéral, en fond, qui a pour but de préserver, de promouvoir, de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel canadien. Donc, essentiellement, c'est ça que je fais. C'est ma mission. Puis, je travaille de pair avec l'équipe de conservation du Parc de la Mauricie pour accomplir cette mission.
OK. Puis, sur quel genre de choses tu prends des données quand tu dis que tu vas sur le terrain prendre des données?
Beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est super varié parce que ben, le domaine, c'est vraiment un domaine qui est sollicité par beaucoup beaucoup de d'autres domaines. Ouais. Ça fait beaucoup de domaines, mais comme la conservation, les écologistes, les biologistes vont solliciter notre aide. Comme par exemple, un exemple banal, les biologistes nous demandent souvent de faire des cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes. Donc, eux, ils vont sur le terrain, ils font l'acquisition de données, puis avec des points GPS des espèces, puis ils nous envoient ça, puis ils nous demandent « Peux-tu me faire une carte thématique de cette espèce-là pour telle région du parc? » Donc, nous, on a toutes les couches d'informations nécessaires, donc les photographies aériennes, une base de données historique de toutes les autres espèces exotiques envahissantes pour dresser un portrait vraiment général ou peu importe selon la demande du thème en question, donc les espèces exotiques envahissantes. Donc, nous, quand on a la carte, ben on fait la publication puis on le remet selon le format désiré. Donc, c'est vraiment un service qui est sur mesure selon la demande. Puis, il y a aussi tout un aspect de gestion de base de données parce qu'en travaillant avec autant de données, ben, il faut s'assurer qu'il y a une intégrité de ces données-là puis qu'ils sont homogénéisés, qu'ils sont en ordre, qu'ils sont faciles d'utilisation. Mm-hmm. Puis ça, pas juste pour nous. Tu sais, oui, nous, on est à l'aise avec ces données-là, on travaille chaque jour, mais pour les personnes, des membres du personnel qui ne travaillent pas à chaque jour avec, il faut que ça soit facile d'utilisation. Fait que c'est vraiment de rendre la pratique, l'utilisation de ces données-là super intuitive puis efficace parce qu'on ne veut pas passer... Deux jours à chercher la donnée, et où, puis peut-être ils sont pas au même endroit, puis tout. Donc, on s'arrange qu'il y a vraiment une intégrité, puis c'est ça. C'est okay. Vraiment un ménage constant qu'on fait, puis qu'on s'assure que tout est bien.
Oui, je comprends. Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ben là, ça va faire un an. À partir du mois de mai. Ouais, j'ai commencé l'été dernier.
OK.
Puis c'est vraiment le fun.
Ouais.
C'est vraiment le fun, ouais. Dans le fond, c'est ça. Durant l'été, c'est surtout l'acquisition de données qu'on fait parce que tu sais, il n'y a pas de contraintes météorologiques tant que ça. On en profite, il fait beau, il fait chaud.
Mm-hmm.
Des fois, il pleut, mais je veux dire, ça fait partie de la game.
Ben oui.
Il faut aller quand même sur le terrain. Fait qu'on focus quand même notre énergie sur l'acquisition de données durant l'été. Puis, durant la saison morte, je peux dire, quand le parc est fermé pour les visiteurs, ben dans le fond, c'est là qu'on va faire le traitement. Toute la compilation de données, l'analyse des données, puis la diffusion pour les rapports des scientifiques, admettons, qui ont besoin de cartes précises. C'est là qu'on va vraiment passer du temps au bureau, puis gérer toutes les données qu'on a récoltées durant l'été.
OK. Fait que l'été, tu récoltes tes données, puis l'hiver, t'es homogénéisé.
Ouais, c'est ça, essentiellement.
Tu fais tes cartes.
Essentiellement, c'est ça. Donc, okay. Vraiment, chaque saison a son objectif. C'est ça.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais, ouais.
Comment tu dirais que la géomatique peut être liée à l'environnement puis à la conservation?
J'en ai un peu parlé tantôt, là, comme, admettons, les espèces exotiques envahissantes, mm-hmm. C'en est un exemple.
Mm-hmm.
Mais vraiment, moi, je le vois de même, la géomatique, en fait, c'est vraiment un outil puissant pour les biologistes, les écologistes, la conservation en général, parce qu'elle permet de mieux comprendre les systèmes à l'étude, mieux comprendre les écosystèmes, dans le cas des biologistes, puis de dresser un portrait historique, plus général, puis de, c'est ça, de mieux comprendre. Ça, c'est vraiment ça, l'aspect central.
C'est pas le visuel aussi.
Ben, c'est ça, exact. Tu peux créer toutes sortes de représentations que tu veux. C'est vraiment à ta sauce, en fait, que tu crées ta carte. Mm-hmm. Puis tu obtiens un résultat que tu veux, en fait. Et ça va dépendre de ta mission, en fait, de ton projet. Mais si je peux donner un exemple plus concret à part les espèces exotiques mm-hmm. envahissantes.
Ben oui.
Dans le fond, au parc, on a plusieurs missions de conservation. L'une d'entre elles, c'est qu'on veut réinstaurer... dans le fond, on veut réinstaurer un équilibre écologique qu'il y avait avant les perturbations anthropiques datant de la période d'exploitation forestière du début jusqu'à la mi-20e siècle.
Mm-hmm.
Lié à la pêche, en fait, qu'il y a eu beaucoup de pêche. Puis il y a eu beaucoup d'intégration d'espèces de poissons qui étaient fortement compétitives. Nous, en tant qu'assistance en géomatique, on va aller sur le terrain, puis on va assister les techniciens de la faune à faire des relevés bathymétriques. Et ça, c'est une grosse opération qu'on fait, en fait.
Peux-tu juste expliquer ce qu'est la bathymétrie, maintenant?
Oui, très bonne question. En fait, la bathymétrie, en fait, c'est toute mesure qui... en fait, c'est une mesure qui sert à déterminer la profondeur des lacs. Comme quand vous voyez, mettons, une carte d'une montagne, vous voyez des courbes de niveau. Ben, essentiellement, on fait la même chose, mais pour la profondeur des lacs. Donc, on cartographie les lacs, puis on est capable de déterminer, justement, la topographie.
Mm-hmm.
Donc, nous, dans le fond, il y a un gros déploiement sur le terrain qui se fait. Bien souvent, c'est en arrière-pays. Donc, c'est des zones qui ne sont pas accessibles par la route. Souvent, il faut faire du canot, de la chaloupe, faire beaucoup de portages pour y accéder. Puis, on débarque là sur le lac avec un canot. Puis, on est deux personnes. Puis, dans le fond, on a des équipements de mesure super précises, haute technologie. Dans le fond, on a une tige qui est dressée sur le canot à la verticale. Puis, à la base, il y a un sonore qui, lui, va capter la profondeur du lac avec des ondes. Et puis, au sommet de cette tige-là, il va avoir une tête GPS haute précision qui, elle, va communiquer va être en constante communication avec les satellites. Donc, pour chaque mesure qui va être effectuée avec le sonore, il va avoir un point GPS qui va y être attribué. Donc, nous, ce qu'on fait, quand ça roule, on se promène sur le lac, puis on fait le périmètre, puis on fait des transects pour avoir vraiment un portrait général de la bathymétrie, des profondeurs du lac. Donc, en quoi c'est pertinent à la conservation, tout ça? Une fois qu'on a ces données-là, puis qu'on publie une carte pour les techniciens de la fonde, pour l'équipe de conservation, eux vont savoir où est le point le plus profond de ce lac-là. Puis en ayant cette coordonnée, ils vont pouvoir aller directement à ce point-là, puis faire leurs tests de physico-chimie du lac. Ils vont pouvoir faire des tests de concentration d'oxygène selon les différentes strates du lac, donc avec un instrument de mesure scientifique. Je connais pas les technicalités, je suis pas technicien de la fonde, mais ils vont aller faire ces tests-là. Donc, ils vont dresser un portrait d'état de santé du lac, et ça pour tous les lacs. Il y a environ 150 lacs dans le parc. Fait qu'il y a beaucoup de lacs à couvrir, fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis là, c'est là qu'on vient en aide, en fait, avec une assistance cartographique, de savoir précisément où est-ce qu'il faut aller faire ce relevé-là. Donc ça, c'est un exemple d'application pour déterminer l'état de santé des lacs, mais il y a aussi un autre projet, une autre mise en contexte, en fait, lié à la déforestation du parc pour la période d'exploitation forestière, dans le fond. C'était la période de la drave. Et puis, dans le parc de la Mauricie, comme vous savez sûrement, là, c'est un territoire qui était quand même pas mal exploité. Puis pour faire transiter les baies de bois vers Trois-Rivières, ils faisaient tout passer ça par la Saint-Maurice. Puis pour sortir les baies de bois du parc, qui n'existait pas encore, là, mais que c'est sur le territoire actuel, ils faisaient des barrages artificiels. Donc, en faisant des barrages artificiels, ils faisaient monter le niveau de l'eau. Puis quand il y avait accumulé assez de baies de bois dans le lac, ils faisaient exploser ces barrages-là. Puis là, ça faisait un flush, qu'on appelle. Donc tout s'en allait vers l'exutoire du lac, vers la décharge, puis qui s'en allait dans Saint-Maurice, puis qui découlait au poste de traite à Trois-Rivières, où est-ce qu'il était exporté et tout et tout. Donc c'est à ce moment-là que, plusieurs décennies plus tard, nous voilà, puis on est retrouvés avec un territoire qui nous paraît naturel à première vue, mais qui, quand on creuse un peu plus, littéralement, on voit qu'il y a d'anciennes structures de drave et que ça modifie la morphologie des lacs, puis la part sédimentaire des lacs. Donc, ça influence les aires de frayère des poissons, surtout de l'omble de fontaine. Donc, c'est ça, on veut réintégrer l'omble de fontaine dans les lacs, qui est une espèce qui était vraiment omniprésente, je peux dire, avant justement ces perturbations anthropiques-là, et surtout liées à la pêche, parce que souvent les pêcheurs, avant c'est un club de chasse et pêche, le parc de la Mauricie, fait que les pêcheurs allaient là, puis ils dompaient là, les poissons qu'ils pêchaient dans les lacs en pensant que, bon, ben c'était, on va peut-être intégrer cette espèce-là parce qu'on veut la pêcher, elle est fun. Ce que ça fait un déséquilibre écologique, puis c'est souvent des espèces compétitives qui étaient intégrées. Donc, c'est au détriment des populations d'hommes de fontaine. Donc, justement, on veut réintégrer cette espèce-là. Donc, c'est ça, on défait les structures de barrage. Puis, nous, dans le fond, quand on va faire la bathymétrie des lacs, bien souvent, on va aller mettre un point géodésique sur une partie un rocher, en fait, qui fait partie de la roche-mère. Donc, il ne va pas bouger. Il va vraiment pas bouger.
Fait qu'un point géodésique, c'est là, puis ça reste là, puis ça bouge pas.
C'est ça. C'est fixe dans l'espace. Puis, dans le fond, nous, on va mesurer exactement la coordonnée, ce point géodésique-là, avec une tête GPS qui va rouler pendant des heures, qui va calculer sa position en communiquant avec les satellites, qui va avoir une précision centimétrique, voire millimétrique. Donc, c'est vraiment, vraiment précis. Puis, avec ce point géodésique-là, nous, on va calculer le niveau par rapport au niveau du lac, par rapport à la position du point. Puis, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, quand les techniciens vont retourner sur le terrain, ils vont avoir toutes les informations du point géodésique et le niveau de l'eau dans le temps. Puis ils vont pouvoir voir la différence de la baisse des eaux parce qu'ils ont enlevé les structures de drave. Ils vont pouvoir voir la différence, le niveau de l'eau qui a baissé. Donc, ils vont pouvoir voir une évolution de l'état de santé des lacs. Puis ça va vraiment dresser un portrait général.
À long terme aussi.
À long terme. Puis de voir est-ce que s'il y a une différence, oui. Puis s'il y a une différence, c'est laquelle, tu sais. Donc c'est vraiment c'est ça, c'est des grosses missions c'est qui prennent cool. beaucoup de temps, mais uh-huh. nous on est là justement pour bien les faire uh-huh. puis travailler de pair avec l'équipe de conservation ça. Donc c'est vraiment ça, c'est des exemples concrets qu'on est tout le temps en train de travailler avec eux, puis c'est super pertinent pour eux parce que sans ça ils ne pourraient pas avoir autant de précision et ils ne pourraient pas mener à bien leur projet. Mm-hmm. Je pense que c'est comme un aspect indispensable de l'équipe.
Ouais, c'est très cool. Puis là, je reviens parce que tantôt, tu m'as dit qu'en été, tu faisais la bathymétrie des lacs, puis en hiver, tu fais... Fait que là, tu passes ton été à faire du kayak. C'est ça qui se passe,
ça. Kayak. Ben, tu sais, le plus souvent possible, je te dirais que c'est un des trucs les plus nice, là, le plus le fun de ma job. Là, tu pars une semaine en arrière-pays, puis tu vas faire du canot là, avec bien souvent ton collègue qui est ton ami, puis des petits trips, c'est super le fun. Fait que oui, le kayak, je fais du canot, tu sais. Puis c'est vraiment le fun, c'est des milieux reculés, puis c'est une expérience unique, honnêtement.
Mm-hmm.
C'est vraiment... tu sais, moi, j'ai fait un bac en géographie environnementale, fait que c'est beaucoup lié à la géomatique, mais aussi à la compréhension du territoire. Puis en tant que géographe de formation, c'est vraiment intéressant de voir le territoire du parc sous ses différentes formes, anthropisées ou non. En allant en arrière-pays, on voit vraiment toutes les facettes du parc. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment captivant puis super intéressant. Fait que,
ben oui, puis après ça, tu te fais des cartes. Fait que tu peux voir des cartes, ben oui. plus précisément dans le cœur du milieu aussi. Là.
Ben oui, c'est ça, c'est super intéressant. Puis pour de vrai, si vous êtes dans des domaines connexes en environnement, en écologie, géographie, géomatique, puis allez voir sur le site de Parc Canada, pour de vrai, ça vaut la peine. N'ayez pas peur d'appliquer pour de vrai parce que c'est des jobs comme ça qui te font vraiment... Tu sais, tu fais de tout, là. Tu fais autant de terrain que tu fais autant de gestion de données. C'est super dynamique, super varié. Fait que moi, honnêtement, je trouve... Puis mon boss me le dit tout le temps, tu sais, t'es dans un camp de vacances, honnêtement. Là. Mm-hmm. t'es dehors tout l'été, t'es avec tes amis, tu fais du fun, puis tu travailles, puis t'es payé.
Ouais, payé à faire du canot.
Ben, c'est ça, payé à faire du canot. Fait que honnêtement, moi, je considère que j'ai quand même une job de rêve, surtout, je suis encore étudiant. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment l'idéal.
Ben, c'est très cool. Merci beaucoup d'être venu.
Ah, ben, fait plaisir. Fait plaisir d'avoir parlé de ça. Pour moi, j'étais tout excité quand tu m'as demandé.
Ben oui, t'étais tellement l'air content. Là, comme tu sembles à ta place quand même.
Ben oui, non, vraiment. Non. Fait que, ben, c'est ça. Merci à vous de m'avoir reçu.
Ben, merci à toi.
Merci.
Hey, c'était tellement intéressant. On vient d'entendre Marc Blondeau, technicien en gestion des ressources naturelles pour Parc Canada. Juste avant, au début, on a commencé avec Mathieu Dufresne, qui est chargé de projet pour Nature Canton de l'Est. Ensuite, on a eu l'entrevue avec Sophie Valence-Doucet, directrice générale de FIVE. Puis, on a parlé avec Mireille Pilon-Deménac, qui est étudiante en travail social. J'ai tellement trouvé ça intéressant. Je ne sais pas pour vous, là. Moi, j'ai trouvé ça le fun parce que là-dedans, tu sais, j'ai deux amis. Fait que là, c'est de voir, comme je sais en quoi ils étudient, mais là, de voir concrètement qu'est-ce qu'ils font puis comment ça peut se lier avec ce que moi, j'étudie aussi. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne sais pas pour vous.
Ben oui, est-ce que ça t'a aidé à bonder? Moi, je trouve que, tu sais, on connecte plus avec tous les gens qui travaillent dans notre domaine, là, qu'on peut s'épauler ensemble.
Oui, c'est vrai. Ben oui, puis j'ai remarqué à quel point l'environnement, ça touche à tout, là, comme je le savais, mais là, ça le prouve encore plus, là.
Ben, je trouve ça inspirant, là, ça montre que, comme, on peut faire plein de choses en environnement, peu importe, là, tu sais, nous, on a fait un bac, on a l'impression qu'il y a juste une destinée après notre bac, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire en environnement, c'est vraiment intéressant.
Ben oui.
C'était une belle brochette d'invités.
Oui, vraiment. Super,
je pense que ça peut surtout inspirer les auditeurs qui n'ont pas nécessairement un intérêt pour le bac en environnement, mais qui ont un background autre, soit un autre bac ou quelque chose au cégep, puis qu'ils peuvent trouver quelque chose qui les intéresse dans ces entrevues-là.
Ouais, j'aurais pas dit mieux. Je pense que c'était un peu l'objectif aussi. Là. Puis même avec les jeunes vont changer le monde en général, c'est d'inspirer les gens qui n'ont pas fait juste... Tu sais, oui, les gens dans le bac comme nous qui sont perdus, mais il y a des gens perdus. Aussi... en tout cas, moi, je me considère perdue, mais sûrement qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent nous écouter qui sont de d'autres domaines puis qui sont intéressées, mais... T'sais, jamais j'aurais pensé que le travail social, ça avait autant un lien. Là, j'en reviens toujours pas. C'est connecté directement avec les changements climatiques, avec plein de concepts, avec l'agriculture urbaine. Fait que c'est vraiment intéressant.
Oui, j'ai vraiment trouvé ça... Oh, c'était une belle surprise!
Moi, ce qui m'a fait triper, c'est la vision long terme que Marc nous présentait.
Ouais.
Parce que vraiment, c'est ça qu'on veut faire là, avec les jeunes vont changer le monde. On veut voir plus loin que juste... les mandats de 4 ans des gouvernements, là, on veut vraiment... Fait que là, c'est le fun, même s'ils travaillent pour le gouvernement, ils travaillent pour Parc Canada, mais quand même, vraiment, il y a un impact plus loin, puis les milieux naturels vont s'améliorer sous son règne, à lui.
Ben oui, puis il a tellement fait paraître la géomatique comme un domaine facile, torieux. J'aimerais ça que ce soit autant facile puis intuitif pour moi, le traitement des données, ouais. Mais... Donc, c'est ce qui conclurait notre émission. J'espère que les auditeurs, auditrices, vous avez appris beaucoup de choses puis ça vous a un peu inspiré autant que nous. Les jeunes vont changer le monde. On se revoit un prochain jeudi. Bye!
Ciao!
Salut!